Notre santé dépend largement de notre environnement. 70% des maladies non transmissibles sont d'origine environnementale.
Ça concerne les maladies cardiovasculaires ou métaboliques, les cancers ou encore les problèmes respiratoires chroniques et aussi la santé mentale.
Mais sommes-nous tous égaux face au changement climatique ?
Je suis Emma de Radio Phoenix à Caen.
Je suis Anaëlle de Radio Phoenix et vous écoutez Génération plus 3 degrés, une série co-réalisée par Radio Campus Angers, Radio Phoenix et Radio Campus Orléans.
Dans cette deuxième trilogie, nous nous intéressons à l'impact du changement climatique sur la santé des femmes.
Pourquoi ce sont les femmes qui assument la charge mentale écologique ? C'est la question que nous nous posons dans ce deuxième épisode.
Les recherches étant ce qu'elles sont, il est important de se demander quelle pilule est-ce qu'on est en train de prendre, comment est-ce qu'elle est dosée, pourquoi est-ce qu'on la prend. Et deuxième aspect, c'est que par l'urine, les composants et ces molécules vont, ces hormones de synthèse vont passer dans les canalisations, vont arriver dans l'eau, vont passer par les stations d'assainissement. Ce qu'on sait, c'est que ça participe à la pollution des cours d'eau, que ces cours d'eau se jettent dans l'océan, et on sait qu'on participe aussi à une forme d'érosion de la biodiversité.
Noémie Moutel, docteure en humanité écologique et agrégée de civilisation des mondes anglophones.
Donc là, oui, on voit bien, en termes de rapport de genre et de dérèglement climatique, qu'il y a des liens qu'il nous reste encore à éclaircir et à regarder en face.
En fait, la charge mentale des femmes, la charge mentale écologique, elle est énorme.
Oui, et ce qui fait que les femmes sont beaucoup plus exposées, c'est qu'elles sont en fait très majoritairement dans des rôles qu'on dit des rôles de care. En anglais, ça veut dire, en français, ça veut dire prendre soin. C'est très, très majoritairement des femmes qui sont dans des métiers sociaux, des métiers de présence, des métiers d'accompagnement, des métiers en fait où quelque part, on se met à la hauteur de quelqu'un d'autre. Alors que les hommes vont être invités par un très grand nombre de biais sociaux à s'élever au-dessus des problèmes, à faire de la politique pour en quelque sorte monter une sorte d'échelle sociale pour parvenir à un endroit où ils prennent des décisions. Et ces décisions-là sont souvent prises dans une sorte de logique mégalomaniaque et dominante, en pensant que l'espèce humaine se trouve au-dessus de toutes les autres espèces. Alors que ce que la crise écologique nous dit et nous montre, c'est que ce n'est pas vrai. Il peut y avoir une intelligence humaine spécifique, mais les autres espèces, les autres règnes, animales, végétales, minérales, sont tout aussi vivants et sont en plus nécessaires au bien-vivre de l'espèce humaine. Et il semblerait que plus un homme monte les échelons et atteint des hautes sphères du pouvoir, plus il oublie complètement ce lien fondamental avec les conditions de vie sur Terre. À l'inverse, des femmes qui vont, à cause de plafonds de verre, pour diverses raisons, avoir beaucoup plus de mal à grimper ces échelons, vont rester finalement dans une zone de conscience, souvent imposée. C'est ce qu'on appelle un rapport de domination. Donc conscience que peut-être qu'il va falloir déménager parce qu'on vit dans une zone qui est insalubre, conscience qu'il va falloir s'occuper des moins valides, il va falloir les déplacer, des personnes qui vont finalement se retrouver en position de sacrifice imposée par une société patriarcale. On pourrait ajouter une troisième sphère privée, la sphère publique et il y a les sphères du pouvoir. Là j'existe dans l'espace public, toutefois j'ai très très peu de pouvoir. J'ai accès aux espaces de pouvoir par le biais des diplômes que je peux obtenir. Là, les personnes qui gouvernent les différents pays qui composent la planète aujourd'hui sont très majoritairement des hommes, donc des personnes qui, socialement, n'ont pas été exposées aux mêmes injonctions que des personnes élevées comme des filles. Donc ça veut dire que ce travail d'élevage des enfants, ce travail de amener de la nourriture et des moyens de subsistance aux plus jeunes et aussi aux plus vulnérables, parce qu'on en parle trop peu, mais les personnes qui sont considérées invalides, les personnes vieilles, les personnes qui ne sont pas dans le schéma validiste actuel, en général vont être prises en charge par des femmes. On a même vu ce slogan à une époque qui disait « Je ne me bats pas pour la nature, je suis la nature qui se défend ». mais donc me considérer comme un corps qui respire, qui dort, qui mange, qui a envie de rire, qui a envie de danser, qui a envie de bouger. Encore une fois, parce que ça vient contredire cette image d'un pouvoir politique qui serait absolument objectif, absolument rationnel, quasiment aseptisé. On prendrait des très grandes décisions tout en haut d'une tour où on serait finalement hors du monde. Et ce que les féministes amènent, c'est de dire « non, moi je suis dans le monde ».
Les femmes, en tant que groupe social, sont par leur présence dans la sphère domestique plus conscientes du changement climatique.
Finalement, c'est la question des graines, de conserver les graines, la question de faire pousser ce qu'on va avoir besoin de manger, la question de comment est-ce qu'on va le conserver, où est-ce que sont les réserves, à quelle vitesse est-ce qu'on sort la nourriture des réserves, qu'est-ce qu'on n'a pas et qu'est-ce qu'il va falloir faire venir d'ailleurs, quel système d'entraide est-ce que je vais mettre en place avec des voisins et des voisines pour garder les enfants, pour faire des récoltes, pour faire des grandes tâches comme ça qui sont nécessaires. La domesticité, c'est pas seulement papa, maman, un bébé, un emprunt. En fait, si on vient penser la domesticité en tant que l'endroit à partir duquel je fabrique ma propre subsistance, on voit la nécessité de se relier, là encore, de fabriquer du collectif. Je ne sais pas, si on passe sur l'image des quartiers populaires, on peut se demander qui a un congélateur, est-ce qu'on peut le mutualiser, qu'est-ce qu'on peut garder dedans, est-ce qu'une fois de temps en temps, on va faire une grosse récolte de mûres et on se retrouve et on fait de la confiture de mûres et tout le monde en a. Et cette intelligence-là, elle est particulièrement cultivée par les personnes qui sont dans des places de subsistance et de questions vivrières. Et par construction sociale, ce sont très majoritairement des femmes qui ont conscience de ce souci de distribution. Et pour utiliser un exemple peut-être beaucoup plus proche de nous, il suffit de se demander, lorsqu'il y a un repas de famille, qui est-ce qui fait à manger ? Un moyen de soulager cette charge mentale, cette conscience écologique et féministe qu'on va avoir de l'époque à laquelle on vit, premier quart du 21e siècle, c'est de collectiviser la question. C'est des pratiques au pluriel. Il y a un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est que dans les années 1960, il y a des tests nucléaires qui ont été faits dans le désert du Nevada, aux États-Unis, et donc c'est une époque où les femmes n'ont pas accès aux études supérieures. Elles sont principalement dans la sphère privée, en train d'élever les enfants, en train de consommer, profiter de la société de consommation, acheter des biens, les transformer, nourrir les enfants. Toutefois, ces tests nucléaires dans un désert près de chez elles les interpellent. Et elles se tournent un peu vers les informations, vers le gouvernement, en voulant savoir est-ce qu'éventuellement il y aurait des conséquences sur la santé de nos enfants ou sur notre santé à nous. Le gouvernement dit « aucun problème, il n'y aura aucune conséquence » et elles doutent. Et elles se mettent à s'inviter les unes les autres dans les cuisines des unes des autres et à boire le café et à discuter et à se dire « bah, y a quand même des radiations, il faut penser qu'on est un peu plus de 10 ans après Hiroshima et Nagasaki ». Elles ont conscience qu'il y a forcément des conséquences et elles organisent une immense collecte de dents de lait. Ça s'appelle Baby Teeth Survey, et ça veut dire une étude des dents de lait. Et elle récolte des milliers de dents de lait pour auto-financer des analyses de ces dents de lait qui vont avoir la particularité, dans l'émail, de garder vraiment un grand nombre de traces pour pouvoir réussir à prouver qu'il y a bien des traces de ces radiations dues aux essais nucléaires dans le corps de leurs enfants et donc dans le leur aussi, puisqu'il y a eu transmission. Et voilà, donc cette charge mentale, même dans l'histoire que je raconte, elle est énorme. S'inviter les unes les autres, faire des recherches, organiser la collecte de dents, lire les résultats, les interpréter ensemble, c'est énormément de travail et ça n'est faisable qu'à plusieurs.
Mais comment éviter le burn-out militant ? Comment rendre la lutte plus belle, plus salutaire et plus saine ?
Il y a un super adage écoféministe qui dit « If I can't dance in your revolution, I'm not coming ». Et qui pourrait être peut-être un remède au burn-out militant. Et en même temps, c'est un paradoxe parce que ça reste une charge et une fatigue militante que de devoir rappeler on est ici pour prendre soin les uns les unes des autres. On est ici pour se faire plaisir d'une manière ou d'une autre. Cette lutte, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle ait une saveur, il faut qu'elle soit inclusive. Et il faut qu'elle nous entraîne, qu'elle nous enthousiasme, que l'on soit en train de défendre des choses qui nous réjouissent. Et l'inclusion des plus jeunes, des personnes qui sont dites des enfants, des adolescents, dans nos espaces de lutte, ça a plusieurs rôles. D'une part, de visibiliser le fait que lorsqu'on est socialisé comme femme et qu'on élève des enfants, on va plus facilement être exclu des espaces de politisation que inclus. Donc on ramène les enfants, on ramène les ados, on ramène les personnes vulnérables, on ramène les personnes âgées, on ramène les personnes dites malades. On se demande en fait si la lutte qu'on est en train de mener, est-ce qu'elle est réellement vivante et inclusive ? Et là où est le paradoxe, c'est que oui, ça reste du boulot de préparer une lutte de cette manière. Ce qu'on essaye de faire, c'est les deux choses à la fois, d'organiser des luttes qui soient les plus collectives, les plus conséquentes et les plus réfléchies possibles, tout en essayant de prendre soin les unes des autres. Et c'est quelque chose qui émerge, il me semble, dans les luttes très contemporaines. Enfin, je veux dire, des 5-6 dernières années, pour ce qui est de la France métropolitaine, dans les luttes écolo, on voit vraiment apparaître une conscience du care et du soin. Parce qu'on a peut-être des fois cette image de l'activiste qui est prêt à aller jusqu'au bout et qui s'enchaîne à je ne sais quoi au bord de la route ou qui va faire une grève de la faim. Et c'est immense respect aux personnes qui luttent de cette manière. Mais c'est loin d'être la seule façon. Et on a de plus en plus conscience, j'ai l'impression, dans les milieux militants, que si on ne prend pas soin les unes des autres, de nos besoins, de la façon dont on s'alimente, de la façon dont on dort, des cadres dans lesquels on se réunit, eh bien, on n'arrivera pas à bâtir des mondes qui ressemblent un peu plus à ce qu'on souhaite.
Il faudrait donc prendre soin des femmes autant qu'elles prennent soin des autres. Pourtant, dans le futur, le dérèglement climatique risque d'accentuer les violences sexistes et sexuelles. On sait par exemple que chaque augmentation de 1 degré de la température mondiale est associée à une hausse de 4,7% des violences conjugales. C'est ce que nous verrons plus en détail dans le troisième épisode de cette trilogie. C'était Génération plus 3 degrés, une série audio proposée par Radio Campus Angers, Radio Phoenix et Radio Campus Orléans.